en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe fut en 2004 le thème de travail principal de l'Académie des sciences morales et politiques. L'Europe déclinée tous les lundis à 15h en séance publique par une communication, à travers une communication prononcée par un membre de l'Académie ou une personnalité extérieure à l'Institut de France. Et en l'occurrence, le lundi 13 décembre 2004, c'est Alain Lamassoure que recevait l'Académie des sciences morales et politiques. Alain Lamassoure, député européen, venu proposer la communication suivante, l'évolution des institutions européennes et le traité constitutionnel. Nous rejoignons tout de suite la grande salle des séances.
Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, de votre invitation. Je ne vous cache pas à la fois le trac que j'ai de m'adresser devant un auditoire aussi prestigieux, l'émotion de reconnaître beaucoup d'amis ou de personnes qui ont marqué ma vie. Monsieur le Premier ministre Pierre Messmer, qui était à Matignon au moment où j'ai commencé ma carrière administrative, je retrouve ici mon premier professeur d'histoire, Monsieur Alain Besançon, qui sait combien son enseignement m'a marqué. Je retrouve le professeur Jean Béchler, avec qui nous nous sommes rencontrés sur les routes d'Albanie pour essayer d'enseigner les rudiments de la démocratie au moment où ce pays se libérait du totalitarisme communiste. Je salue Monsieur de la Rosière, qui est un des pères de l'euro et qui nous a beaucoup appris. Mon ami Jean-Claude Casanova, bien entendu. Et puis, des personnes qui ne sont pas ou pas encore membres de votre académie, mais en particulier Madame Dugrand-Rude, qui a participé avec moi aux travaux de la Convention européenne. Je voudrais saluer Stéphanie Chemery, qui est la jeune, toute jeune ancienne présidente du Mouvement européen des jeunes, et puis des collaborateurs précieux qui m'ont aidé dans mon action, en particulier Constance Legris, Georges Laloyère et Patrice Cardot et d'autres. Pardon de ne pas vous citer tous. Pyrénées-Atlantique, cher Michel Albert. Et nous allons commencer en 1973. Pierre Messmer est Premier ministre, Georges Pompidou est Président de la République, il fait un voyage à Sarre, petit village frontalier, il est reçu par la municipalité, et le maire, qui est un homme truculent et plein d'esprit, lui dit, vous savez, Monsieur le Président, ici c'est un peu particulier, vous avez un conseil municipal de 16 membres, il y a 15 contrebandiers. Le Président Pompidou, un peu intrigué, amusé, plein d'humour, il dit, je suppose, Monsieur le maire, que le 16e est le maire. Et il répond, ah non, c'est le douanier. Mars 2003, 30 ans plus tard, nous sommes pas très loin de là, 60 kilomètres, à Anglette, dont à l'époque je suis maire, et où je venais d'être maire, et nous fêtons ce jour-là la fête de l'Europe, comme tous les 9 mai, le printemps de l'Europe, On a une journée consacrée aux élèves des écoles de CM2 pour leur expliquer ce qu'est l'Europe. Et je demande à mon auditoire turbulent, combien d'entre vous sont allés à l'étranger? Alors tous lèvent le doigt, moi monsieur, évidemment, nous sommes tout près de l'Espagne. Deuxième question, quand vous allez à Saint-Sébastien, où est la frontière? Perplexité des gamins, conciliabule entre eux, puis une petite fille moins timide que les autres, se tournent vers moi et, se faisant leur porte-parole, me demandent « Dis, monsieur, qu'est-ce que c'est la frontière ?» Et quand j'ai raconté cette anecdote assez surprenante à Bordeaux, devant des enseignants bordelais, ils m'ont dit « Mais vous savez, nos élèves disent la même chose. » En 2003-2004, en Aquitaine, je pense que ce n'est pas très différent dans d'autres régions françaises, les enfants ne savent plus ce qu'est la notion de frontière. Qui leur paraît aussi baroque que la barrière d'octroi, qui peut demeurer à la Porte Saint-Martin à Paris ou ailleurs, peut nous paraître aujourd'hui. En 30 ans, nous avons changé de monde. Et mon propos dans ce cycle de conférences, je vous félicite, Monsieur le Président, d'avoir choisi l'Europe comme cycle de conférences cette année, c'est une grande année de choix pour l'avenir de l'Europe, sera de dire que si nous voulons progresser, il faut poser le problème européen tel qu'il se pose en 2004 et non pas tel qu'il se posait en 1960 ou 1970. Nous avons changé de siècle et l'Europe est en fait un continent nouveau que nous explorons tout en l'inventant. Et le sentiment que j'éprouve devant vous est celui de Phileas Fogg venant devant le Reform Club ou la Société royale de géographie raconter les résultats de ses explorations et demander conseil et soutien. Et donc je voudrais dire que si le clivage tout à fait normal, compréhensible, entre ce que l'on appelle les souverainistes et les fédéralistes a longtemps animé le débat européen, ça n'est plus aujourd'hui le clivage pertinent si l'on veut comprendre ce qu'est devenue l'Union européenne et si l'on veut faire les bons choix pour l'Europe à venir. En effet, quand on observe, et je m'excuse naturellement dans ce court exposé de 30 minutes du caractère simpliste et parfois un peu caricatural de l'analyse, les 50 ans qui viennent de se produire, nous sommes frappés sur notre continent par deux phénomènes apparemment contradictoires et également importants. D'un côté, ce mouvement d'intégration, cette union sans cesse plus étroite dont parlent les traités et qui se réalise approfondissement après élargissement à la moyenne sur 50 ans d'un traité tous les 3 ans. C'est inexorable. Personne n'a pu l'arrêter. Mais de l'autre, un taux de natalité, si je puis dire, très élevé des États-nations en Europe. J'ai retrouvé par hasard, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le grenier de la maison familiale, l'atlas de géographie sur lequel mon grand-père avait appris la géographie politique de l'Europe, vers 1870-75. Et j'ai réalisé qu'il y a aujourd'hui sur la carte de l'Europe géographique 24 pays indépendants qui n'existaient pas dans l'Europe de mon grand-père. Et qu'en particulier, depuis 1989-91, il y a eu un taux de natalité assez important. Et donc ce phénomène d'épanouissement de nations nouvelles, eh bien, il se produit en même temps que le phénomène de rapprochement des pays européens dans une union commune. Et donc l'Europe qui se fait, l'Europe politique, n'est pas une Europe fédérale, ne peut pas être une Europe fédérale, ne sera pas une Europe fédérale au sens du fédéralisme à l'américaine ou à l'allemande. Il s'agit de combiner la capacité de pays voisins de constituer un ensemble qui obéit à un certain nombre de règles de vie communes et qui parle d'une seule voix et agit d'un même mouvement sur la scène internationale tout en préservant l'identité, l'indépendance et la souveraineté des États qui le composent. Et ça a été la grande originalité de la démarche qui a été entreprise par les pères fondateurs et je voudrais d'ailleurs, quand on évoque les pères fondateurs, bien entendu rappeler tout ce que nous devons à Jean Monnet et Robert Schuman, mais aussi ce que nous devons aux fondateurs du traité de Rome, qui n'étaient pas les mêmes, et notamment les Beneluxiens, Paul-Henri Spaak, Guy Mollet, qui ont su concevoir l'Europe comme une construction, comme un processus, destiné à aboutir un jour quand on ne savait pas, à l'union politique de l'Europe. L'union politique, qu'est-ce que ça voulait dire? On ne savait pas. On lançait un processus en rassemblant les pays européens qui souhaitaient le faire sur un sujet d'intérêt commun, à l'époque, la reconstruction des économies après la guerre, avec l'idée que cette première réussite pourrait inciter à développer les relations dans d'autres domaines. Et pour y parvenir, en mettant en place une sorte de tension permanente qui a souvent été chaotique, mais qui a été extraordinairement féconde, entre des institutions proprement européennes, communautaires, la Commission européenne, puis le Parlement est venu s'y ajouter plus tard, et les États membres, les gouvernements des États membres, qui se sont appropriés la démarche européenne en faisant en sorte que tous les succès de l'Europe soient en réalité aussi les succès des États membres. Et il y aurait d'ailleurs un livre admirable à écrire pour montrer que la construction européenne a été la gloire des nations qui y ont participé. Alors cette Europe des traités a fonctionné, elle ne peut plus, parce que en 30 ans, du fait d'ailleurs des propres réussites de l'Union européenne et de changements considérables intervenus qui n'ont rien à voir avec elle, nous nous trouvons en face d'une situation radicalement nouvelle et de bouleversement que j'appellerai, excusez les formules un peu fortes, mais c'est pour mieux capter votre attention, la révolution du nombre et la révolution de la paix. Je m'explique. La révolution du nombre. On ne gouverne pas un club de 25 membres comme on gouverne un club de 6 membres. À 6 membres, toutes les décisions importantes se prenaient à l'unanimité. Ça n'était pas trop difficile d'avoir unanimité entre la France, l'Allemagne, l'Italie et les trois pays du Benelux. À 25, dire qu'il y a un sujet qu'on traite encore à l'unanimité, c'est dire que sur ce sujet, on ne décidera plus jamais rien. Nous avons mis, président Gattaz est là, il peut en témoigner comme beaucoup d'autres, nous avons mis 30 ans à nous mettre d'accord, à l'époque où nous n'étions que 9, 12 puis 15, sur le statut de la Société anonyme européenne, pour d'ailleurs accoucher d'un texte qui est tellement faible qu'aucune société n'envisage de s'en servir. Et nous n'étions que 15. À 25, nous ne serons plus jamais d'accord sur rien. Ce qui veut dire que la règle de la décision à la majorité va s'imposer, ce qui veut dire qu'il existera des cas, pas trop nombreux, mais enfin tout de même relativement fréquents, où des lois s'appliqueront en France contre le vote du représentant du gouvernement français. C'est ce que j'appelle la révolution du nombre. Si on veut être 25, il faut accepter cela. Ou alors on n'accepte pas d'être 25. Deuxièmement, plus importante, la révolution de la paix. Je suis frappé de voir combien nous avons du mal à prendre acte de cette situation incroyablement neuve que représente le fait que nous sommes désormais en paix perpétuelle avec nos voisins européens. Le rêve de Kant, il est réalisé. On aurait dit ça à ma grand-mère. Elle nous aurait traités de fous. Ce rêve réalisé. Or, nous n'avons pas pris conscience, et ça serait un sujet extraordinaire pour l'Académie, des conséquences d'un monde de paix sur notre conception de l'État, de la société, sur nos lois, sur nos philosophies, je dirais même sur nos religions, qui toutes se sont bâties dans une période où l'État était sans arrêt menacé de la guerre avec les voisins et où la paix n'était en fait qu'une succession d'entre-deux guerres. Trois vagues de conséquences sont amenées par cette paix que je qualifierais de perpétuelle entre nous. D'abord, la disparition des frontières terrestres. J'y faisais allusion dans mon anecdote initiale. Quand se présentent au poste de Biriatou 30 véhicules par heure, ben on arrête et on fouille 30 coffres. Quand ils s'en présentent 300, on n'en contrôle plus qu'un sur 10. Quand il s'en présente 3000, on n'en contrôle plus aucun. Parce qu'on ne peut pas, ça n'a plus de sens. Mais si vous ne contrôlez plus les frontières intérieures, ça veut dire non seulement qu'il faut qu'en contrepartie, vous contrôliez plus loin les frontières externes de cette union où il n'y a plus de contrôle, mais ça veut dire aussi que vous êtes obligé d'avoir les mêmes règles pour ce qui concerne l'entrée dans cette union, non seulement pour les marchandises, pour les capitaux, cher Jacques de la Rosière, pour les services, mais aussi pour les personnes. Non seulement pour les touristes, pour les visiteurs, pour les hommes d'affaires, mais pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les demandeurs d'asile, pour les immigrés. Vous avez besoin de politiques communes. Deuxième vague d'innovation introduite par la révolution de la paix. Pour assurer un vrai marché commun, cet espace où tout circule librement, il ne suffit pas simplement pour que les règles, les conditions de concurrence entre les entreprises soient tout à fait égales, de supprimer les droits de douane et les contrôles aux frontières. Il faut aussi que les grandes règles qui ont des effets directs sur la compétitivité des entreprises soient les mêmes en matière de normes techniques, de standards de sécurité, en matière de règles de concurrence, en matière de marché public, etc. Nous avons besoin de lois communes, de lois au sens juridique du terme. Et c'est le traité, le moins bien connu d'ailleurs de l'opinion publique, de 1986, qui a changé la nature de l'Union européenne, qui jusque-là était un accord entre gouvernements, et qui est devenu, qui a acquis un pouvoir législateur. Et à partir du moment où vous faites des lois, vous ne pouvez pas demander uniquement à des représentants de gouvernement de voter des lois. Monsieur le sénateur, mais il y a des parlementaires, des anciens parlementaires ici, la loi, dans un régime démocratique, est votée par des représentants du peuple, élus pour cela, élus sur un programme législatif, c'est-à-dire par un parlement, avec une ou deux chambres, mais sûrement pas uniquement par des gouvernements. Troisième vague apportée par cette révolution de la paix, que je symbolise, pardonnez l'allusion familiale, par mon petit-fils, Pablito. Pablito est né des amours, à l'époque coupables, mais fécondes, de ma fille Hélène, de nationalité française, et d'un jeune Espagnol à St. Andrews, en Écosse. Génération Erasmus. D'ici quelque temps, ils iront vivre en Italie. Pablito aura ses premiers souvenirs d'enfance, peut-être ses premiers émois sentimentaux. Quelle sera la patrie de Pablito ? Du temps où nous étions dans un parti qui s'appelait l'Union pour la démocratie française, il y avait deux possibilités, d'être à l'UDF, ou bien être membre d'un parti qui constituait l'UDF, ou bien être adhérent direct. Pablito sera-t-il un adhérent direct de l'Europe ? S'il n'y a qu'un seul Pablito ou quelques-uns, ça n'est qu'une affaire familiale qui fait sourire. Mais avec Erasmus, s'il y a des centaines de milliers, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, demain des millions de jeunes qui se rencontrent, qui se marient, ça change tout. Quand un Montaigu fait la cour à une Capulet, c'est un fait divers ou c'est une grande tragédie de Shakespeare. Quand tous les Montaigu font la cour à toutes les Capulet, réciproquement, c'est une nouvelle famille, c'est un nouveau peuple. Alors, ça n'est pas le problème d'aujourd'hui, mais si nous prétendons bâtir pour 50 ans, pensons à ce doux risque. Nos enfants ne se font plus la guerre, nous courons le risque qu'ils s'aiment et qu'ils aient des enfants. À partir de là, nous avons besoin de passer de la logique du traité à la logique de constitution. Et c'est ainsi que les dirigeants européens, conscients de ces, ce que j'appelle les deux révolutions, celle du nombre et celle de la paix, et du fait que nous avions besoin, maintenant que l'Union atteignait les limites géographiques du continent, de lui donner des fondements correspondant aux réalités et aux besoins de ce début du XXIe siècle, ont innové dans la méthode, en faisant appel à des représentants des peuples, des parlements nationaux, qui ont siégé à côté d'eux au sein d'une convention européenne. Par un mystère, tant arithmétique que politique, cette convention qui comprenait plus de 200 personnes, représentant 28 pays et une soixantaine de partis politiques différents, est arrivé à un consensus sur la base d'un texte plus ambitieux, plus novateur que le traité que peu de temps auparavant, seulement 15 représentants des gouvernements avaient établi à Nice. Et ce texte est profondément novateur sur 4 points. Premier point, l'Union européenne, qui jusque-là était une union économique et monétaire assortie des pouvoirs juridiques liés à cet objectif, devient une véritable union politique fondée sur des valeurs énoncées dans la Charte des droits fondamentaux et résumées dans l'article 2 de la Constitution, et sur des objectifs communs en Europe et hors d'Europe. Cette union aura la personnalité juridique, conséquence politique considérable. Elle va avoir à négocier son entrée dans toutes les organisations internationales qui interviennent dans un champ de compétences correspondant à ceux de l'Union. Deux exemples. À l'Organisation maritime internationale, l'Union va pouvoir se substituer aux États membres et elle y aura la majorité, alors qu'aujourd'hui, dans cette enceinte, la majorité est détenue par les pays à pavillon de complaisance et que les règles de sécurité pour la circulation des navires dangereux que nous nous donnons entre nous ne sont pas appliquées dans le reste du monde. Deuxième exemple, le Fonds monétaire international, et je parle sous le contrôle de Jacques Delarosière, qui le connaît mieux que personne. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'existe pas juridiquement. Le jour où elle existe, nous pourrons à ce moment-là négocier un statut au sein du FMI dans lequel l'Union remplacera les pays membres de l'euro. Et la part de capital du FMI, le quota détenu par les États membres de l'euro, pourront s'additionner dans la part de l'Union. Et donc, on constatera qu'elle est supérieure à celle des États-Unis et on pourra demander d'appliquer les statuts du FMI qui prévoient que le siège de l'institution est situé dans le pays qui a le plus gros quota. Je vous laisse imaginer les conséquences politiques. Deuxième novation, le champ de compétences de l'Union est mis à jour, précisé et soumis à un contrôle permanent. Et c'est un point sur lequel la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, au sein de la Convention, s'est exprimée une unanimité. Les représentants de tous les partis politiques, de tous les pays européens, y compris les conservateurs britanniques, qui sont les moins enthousiastes du processus européen, sont d'accord pour, tenant compte de 40 ou 50 ans d'expérience, définir ce dont l'Union doit s'occuper, ce dont elle ne doit pas s'occuper. Et pour mettre en place un contrôle de l'application de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui sera efficace, puisqu'il est remis aux parlements nationaux des États membres. Ce sont eux qui ont évidemment le plus intérêt à ce que l'Union n'empiète pas sur les compétences nationales. Je voudrais insister sur un point dont on n'a pas suffisamment mesuré la conséquence. Dans cette répartition des compétences, elle est très différente de la répartition d'un État fédéral classique. Et l'architecture proposée correspond à un système politique avec deux niveaux de décision. Là, on retrouve un schéma fédéral. Mais, se présentant de la manière suivante, il y a le niveau, l'espace normatif, dans lequel on fixe les règles de vie en commun et d'action commune, les grandes règles, et dans laquelle on définit ses intérêts et on défend ses intérêts vis-à-vis du monde extérieur. Cet espace-là, ce niveau-là, c'est le niveau continental, c'est le niveau européen. Et puis il y a l'espace d'identité et de solidarité. Et ça reste l'espace national. Pour l'identité, c'est évident, la langue, la culture, la politique de l'éducation reste entièrement de compétence nationale. Mais ce qui est moins évident, c'est l'espace de solidarité. La redistribution entre les riches et les pauvres, entre les malades et les bien portants, politique de santé, assurance maladie, entre les jeunes et les moins jeunes, politique des retraites, demeure essentiellement une compétence nationale. Aux États-Unis, en Allemagne fédérale, dans les autres pays fédéraux classiques, cette redistribution se fait moitié-moitié entre le niveau fédéral et le niveau local. En Europe, dans le cas de la France, quand un Français gagne 100 euros, il paye en moyenne 44 euros d'impôts et de cotisations obligatoires, 43 sont redistribués entre Français, 1 euro seulement alimente la toute petite solidarité européenne. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand nous nous fixons comme objectif, un objectif ambitieux, mobilisateur, partagé par tous les partis politiques de tous les pays européens, à nouveau, faire en sorte qu'en 2010, notre économie, avec sa monnaie commune, l'euro, soit au niveau de la plus compétitive du monde de ce moment-là, grâce notamment à ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, Pour y parvenir, il faut certes que l'Union européenne fonctionne bien, mais il faut aussi que tous les États membres introduisent cet objectif au cœur de leurs priorités nationales et se coordonnent entre eux pour parvenir à ce résultat. Autrement dit, nous constatons que pour un objectif de ce genre, les outils, c'est la politique budgétaire, c'est la politique fiscale, c'est la politique de l'éducation, c'est la politique de la formation, c'est l'essentiel du droit du travail, qui demeure des compétences européennes. Et que personne ne propose... Et que personne ne propose de transférer à l'échelle européenne, même les plus ardents des fédéralistes. Et donc nous avons besoin d'un système de gouvernance de l'Union européenne qui, certes, prenne en compte à certains égards, j'y viens maintenant, le modèle fédéral, mais qui le complète en tenant compte de cette particularité. Troisième novation introduite par la Constitution, l'Union reçoit des dirigeants propres, des dirigeants à elle. Jusqu'à présent, elle était dirigée par l'amicale des gouvernements nationaux, je dirais en souriant, pendant leurs heures supplémentaires. Le président français, le Premier ministre et le Premier ministre des pays voisins se rencontrent une fois tous les 3 mois, pendant 2 jours, pour gouverner l'Europe. Puis chacun rentre chez lui et laisse la Commission européenne et le Parlement européen pour expédier les affaires courantes. Désormais, ce sont des dirigeants proprement européens qui, pour les plus importants, seront élus par les citoyens européens, comme on l'est dans le cadre national ou dans le cadre municipal, qui auront en charge la direction de l'Union européenne. Avec, là, un modèle qui s'inspire du modèle fédéral. La loi européenne devra être votée par une majorité à la Chambre haute que devient le Conseil des ministres européens et à la Chambre basse qu'est le Parlement européen représentant les citoyens. Et il y aura un Monsieur Europe ou une Madame Europe élu par les citoyens européens selon le modèle parlementaire, c'est-à-dire élu par le Parlement au lendemain des élections parlementaires et donc... Si les partis politiques s'organisent pour cela, élus par les citoyens à l'occasion de cette élection parlementaire, de la même manière que le Premier ministre de Sa Majesté britannique ou le chancelier d'Allemagne fédérale sont élus par les citoyens à l'occasion de l'élection parlementaire. Donc, modèle fédéral pour le fonctionnement de l'Union, mais assorti d'un complément qui est la nécessité que je viens d'évoquer, de coordonner les politiques nationales. Et c'est pourquoi, dans le cadre de l'Union, mais à côté des institutions proprement communautaires, on réforme les représentants des États, le Conseil européen, de façon à ce que la coordination se fasse de manière plus satisfaisante qu'aujourd'hui. Le Conseil européen aura un président permanent, il aura sous ses... ordres, en quelque sorte, le Conseil des affaires générales, qui lui-même aura sous ses ordres les conseils spécialisés, et le Conseil des ministres de l'euro aura également un président permanent et pourra adapter ses propres règles entre pays membres de l'euro sans que les pays qui n'en sont pas encore membres puissent intervenir. S'il fallait résumer cette organisation d'une image, j'utiliserais volontiers l'image d'un concerto. On parlait au XIXe siècle du concert européen, du temps de Jean Tullard, si je puis dire, après l'épopée napoléonienne, le congrès de Vienne a mis en place le concert européen, que nous avons d'ailleurs étudié parce que c'est un enseignement qui est tout à fait intéressant. Là, je dirais, ça devient un concerto. Qu'est-ce que c'est qu'un concerto ? C'est un dialogue entre un instrumentiste et puis l'orchestre. L'instrumentiste, le soliste, c'est l'Union. C'est l'Union qui, grâce à ses institutions, modèle fédéral, pourra prendre des décisions et parler d'une seule voix. Mais pour réussir notre stratégie dite de Lisbonne, par exemple, faire en sorte que nous ayons l'économie la plus prospère en 2010, il faut que tout le reste de l'orchestre joue aussi la même partition. Et l'orchestre, c'est les États membres. Et le chef d'orchestre, c'est le le président du Conseil européen, qui ne sera pas le président de l'Union, qui ne sera pas un chef d'État, qui n'aura pas un pouvoir considérable parce qu'il ne sera élu que par 25 personnes, les membres du Conseil européen, mais qui aura un rôle qui n'existe pas dans les autres systèmes politiques, de veiller à ce que tout le monde respecte la partition et que non seulement le concert joue en harmonie, mais qu'il y ait une harmonie avec l'Union. Enfin, quatrième et dernière novation de la Constitution, les droits des États et leurs devoirs au sein de l'Union sont clairement précisés de manière à ce que chaque État s'y sente à l'aise. Le paradoxe, c'est que les traités actuels ne respectent pas la souveraineté des États et que la Constitution le respectera. La Constitution prévoit clairement que ce sont les États qui ont le pouvoir constituant, que l'Union doit respecter l'identité nationale de chaque État et précise ce qu'on entend par identité nationale. Les parlements nationaux deviennent, je l'ai dit, les gardiens du champ de compétences des États membres. Enfin, l'article 60 prévoit la possibilité pour un État de sortir quand il veut de l'Union européenne. Et la souveraineté, c'est au fond quoi ? C'est la compétence de la compétence, le pouvoir de dire qui aura le pouvoir de faire quoi, et c'est pour un peuple le pouvoir de maîtriser son destin et de rester maître de son destin, quoi qu'il arrive. Dans les traités actuels, ceci est tout à fait impossible, sans créer une crise majeure et sans revenir à la période d'avant 1914, où on peut considérer que les traités sont des chiffons de papier. En conclusion, Monsieur le Président et chers amis, ce texte n'est ni un traité ordinaire, ni une constitution au sens classique du terme. Ça n'est pas un texte qui régira l'Union européenne pour tout le XXIe siècle, ni même pour les 50 ans dont rêvait le président Giscard d'Estaing. Ce texte est incomplet. Il comporte un ou deux contresens politiques graves qu'il faudra corriger si on veut que ça marche. Mais il a le mérite de permettre de passer de l'Europe des gouvernements et des États à l'Europe des États, des citoyens proprement démocratiques. Ce faisant, il institue une révolution. Et je terminerai par là. Cette révolution, nous pourrons, nous, la vivre comme une révolution française. Si la construction européenne, depuis l'origine, est une œuvre collective, aucun pays n'y a porté sa marque comme l'a fait la France, tant à l'origine qu'à chacune des étapes majeures. Dans le texte même de la Constitution, les auteurs étrangers soulignent qu'aucune nationalité n'a apporté plus que les membres français de la Convention. Cela ne signifie pas que les institutions européennes ressembleront aux institutions nationales françaises, encore que nous soyons plus familiarisés que d'autres à une forme de dualité de l'exécutif. Mais le principe, le cadre, la philosophie de la Charte des droits, comme de la Constitution elle-même, sont inspirés de notre tradition politique plus que de tout autre. Ce faisant, nous engageons le dernier des grands objectifs des constituants de 1789, de 91. La liberté a été la conquête du XIXe siècle, l'égalité a été le grand sujet, pour ne pas dire la grande passion, souvent tragique, hélas, du XXe siècle, la fraternité sera l'immense enjeu du XXIe siècle. Et par définition, la fraternité, ça ne se vit pas tout seul. La fraternité, c'est ce qu'à travers le projet de Constitution européenne, c'est ce que les Français proposent à leurs partenaires du continent et au reste du monde. Je vous remercie.
C'était Alain Lamassoure, député européen, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 13 décembre 2004 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, thème développé par Alain Lamassoure. communication autour de l'Europe, l'évolution des institutions européennes et le traité constitutionnel. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de la transcription de ces textes écoutés, entendus sur Canal Académie, tout simplement eh bien, sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, le site internet, voici l'adresse www.asmp.fr.